40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Aujourd'hui, on va parler santé et futur de la médecine avec mon invitée du jour, Sophie Acosta. Salut Sophie.
Salut.
Sophie, tu as été choisie comme Sista par Nicolas Hernandez il y a un peu plus d'un an. Et quand on t'a contactée, tu nous as dit « je préfère attendre un petit peu, que mon projet soit un peu plus mûr ». Et aujourd'hui, je crois que ça fait 6 mois qu'il est né officiellement. Et tu viens nous en parler à ce micro.
Tout à fait.
Alors, on aura une petite question surprise de Nicolas. Mais avant, je te propose de pitcher COR, qui s'écrit K-O-R.
C'est ça.
Pour ceux qui iraient chercher sur Internet après cette interview. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est COR?
Oui, tout à fait. Alors, COR, c'est pour toute personne qui veut prendre soin de sa santé, qui veut faire de la prévention, mais qui ne sait pas aujourd'hui très bien que faire ni comment faire, ou qui trouve ça trop long et fastidieux. On propose une nouvelle génération de check-up qui permet en 2 heures seulement d'avoir une vision globale de sa santé, de dépister les maladies le plus tôt possible pour en favoriser la guérison et d'optimiser sa santé à la fois à très court terme pour améliorer son niveau d'énergie, sa qualité de vie et à très long terme pour rester éloigné des maladies chroniques qui sont en train d'exploser dans nos sociétés. On a fait le choix de se déployer dans un premier temps au sein des entreprises comme un avantage salarial. C'est quelque chose qui existe déjà en fait pour les grands dirigeants, mais qui est trop long et onéreux tel qu'il est fait aujourd'hui pour être proposé à tous les employés. Donc nous, on réinvente la façon dont on fait le check-up de façon beaucoup plus efficace, avec notamment de la technologie, pour pouvoir l'étendre et l'offrir à l'ensemble des employés.
Et concrètement, c'est une machine, comment ça se concrétise en fait?
Tout à fait. Alors l'expérience, elle est ultra simple pour l'utilisateur. Ça se passe en 3 étapes. Une première étape, on s'inscrit sur la plateforme, donc on répond à une série de questionnaires pour construire son profil médical complet, ouais. Comprendre ses antécédents familiaux, médicaux, ses facteurs de risque. En fonction de ça, on va personnaliser le parcours de check-up. Donc ce ne sera pas le même check-up pour un fumeur de 60 ans ou pour un athlète de 30 ans. La deuxième étape, c'est donc de venir en personne dans les locaux de COR, où on va rencontrer un médecin et une infirmière qui vont faire une série de tests et d'examens. Donc à la fois des tests assez classiques comme la prise de sang, électrocardiogramme, et des tests beaucoup plus innovants qui vont utiliser notamment les dernières technologies de diagnostic, de dépistage grâce à l'IA. Par exemple, on va utiliser un casque de réalité virtuelle pour la santé visuelle. On va utiliser aussi un dermatoscope connecté pour analyser grâce à l'IA les lésions cutanées, pouvoir voir l'évolution d'année en année, et donc avoir une vision d'ensemble de sa santé et comprendre ce qu'on peut améliorer et dépister les maladies le plus tôt possible. Et la troisième étape qui va changer radicalement l'expérience par rapport à aujourd'hui, où on reçoit un fichier PDF avec
on comprend rien.
Plein de données, où on comprend absolument rien, effectivement. Ça peut même être anxiogène quand on voit une valeur anormale, on va chercher ce que ça signifie. En fait, on est un peu perdu face à ça. Donc nous, dans la troisième étape, l'idée, c'est d'avoir une téléconsultation avec un médecin qui, pendant 45 minutes, va nous partager les résultats de façon claire et structurée. Donc pour quelqu'un qui n'a pas fait médecine, en fait, par organe vital, ton cœur, tes poumons, tes reins, et on va construire ensemble avec ce médecin un plan d'action personnalisé qui va nous permettre d'optimiser notre santé et qui va faire l'objet d'un suivi tout au long de l'année.
Alors, j'ai 1000 questions qui me viennent, mais je ne voudrais pas voler la question à Nicolas Hernandez. Je te propose donc ce message.
Vous avez un message.
Alors Sophie, étant donné donc tes brillantes capacités et la super formation que tu as reçue après tes études et McKinsey chez 360 Learning, tu as choisi le secteur de la santé, tu as beaucoup réfléchi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce secteur-là, pourquoi investir ton temps et ton énergie sur ce secteur-là plutôt qu'un autre secteur?
Moi, j'ai toujours su que je voulais monter une boîte. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit à Nico lors de notre premier entretien chez 360 Learning. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu faire chez 360 plein de choses différentes, de la vente au marketing, aux opérations, à la finance. Bon, effectivement, quand tu veux lancer une boîte, le premier challenge, c'est de trouver l'idée. Ex aequo avec le fait de trouver des cofondateurs. Alors, tu peux faire les deux en même temps, parfois l'un après l'autre. Ça dépend des cas. Et ce qui était vraiment important pour moi, c'était de trouver une idée avec un impact fort, positif sur le monde, avec un potentiel énorme et sur un sujet assez profond et passionnant pour que je puisse y consacrer les 10 prochaines années de ma vie. Alors, c'est vrai que la santé, c'est un des secteurs qui n'a pas beaucoup évolué depuis 20 ans. Il y a des opportunités d'amélioration qui sont énormes. C'est un sujet qui me passionne aussi à titre personnel, surtout depuis que j'ai 2 enfants. Je me sens un peu responsable d'être en bonne santé et le plus longtemps possible. Par ailleurs, j'ai passé un peu de temps aux États-Unis quand j'étais chez 360 Learning pour lancer l'activité là-bas. Et j'ai découvert ce mouvement vers la santé proactive qui est en train d'exploser.
Oui, parce que eux, ils ont pas mal d'apps. Enfin, moi, je sais que j'ai une amie qui est hyper branchée sur ces sujets-là et qui envoie des trucs aux États-Unis, à des apps où ils sont vraiment dans cette démarche de tu prends en main ta santé.
Absolument. En fait, on a la chance en France d'avoir un système de santé qui est très très bon. Donc, on est pris en charge quand on est malade, mais c'est pas le cas aux États-Unis. Donc là-bas, ils font beaucoup plus de prévention. Donc, il y a aussi des gourous de la longévité comme Peter Attia, Huberman, qui sont en train d'évangéliser beaucoup ceux-là aux États-Unis. Il y a aussi les célébrités, les athlètes qui en parlent. Et puis, effectivement, il y a toutes ces startups qui sont en train d'émerger. Ça peut être des AS, ça peut être des boîtes de recherche en longévité qui sont en train de faire avancer les choses. Donc, moi-même, j'ai beaucoup testé ces choses-là quand j'étais aux États-Unis, que j'ai trouvé passionnantes. En fait, j'ai appris des choses sur ma santé qui vont avoir un impact sur ma santé, qui ont déjà d'ailleurs un impact. J'ai trouvé ça génial.
Il y a pas un côté anxiogène?
Alors, c'est intéressant comme question parce que nous, dans les tests qu'on a fait avec Core, ouais. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait tout un spectre possible d'utilisateurs. Il y a l'utilisateur qui va vouloir savoir tout sur tout, donc comprendre chaque biomarqueur, quelles sont les causes possibles, les complications possibles, qu'est-ce que ça signifie, comment je peux l'améliorer. Et de l'autre côté du spectre, il y a la personne qui veut pas savoir, en fait, qui veut juste savoir qu'elle est en bonne santé et peut-être connaître les 2-3 choses qu'elle peut faire pour s'améliorer et c'est tout. Et donc, nous, on va pouvoir vraiment couvrir l'ensemble de ces approches-là.
Et délivrer l'information en fonction de ce que la personne a envie de savoir.
Exactement. Donc, permettre à la personne qui veut savoir d'aller très loin dans la compréhension du sujet et la personne qui n'a pas envie de savoir, effectivement.
Et toi, tu étais plutôt de l'autre côté.
Moi, je l'ai complètement. Moi, je veux tout savoir, je veux tout contrôler sur ma santé.
Il y a des choses que tu as apprises et des choses que tu as découvertes par ces apps, ces technologies qu'il y avait aux US et qui t'ont étonnée.
Ouais, tout à fait. Alors, par exemple, j'ai appris que j'avais une prédisposition génétique au glaucome, qui est une maladie de l'œil. Donc, j'ai 41% de probabilité de le développer. Et c'est génial parce qu'en fait, je sais que je vais faire un bilan ophtalmologique tous les ans qui va permettre de dépister cela le plus tôt possible, d'être prise en charge. Alors que si j'avais pas su, potentiellement, ça aurait pu dégénérer et devenir plus grave. Je pense qu'un des sujets clés aujourd'hui, c'est aussi le diabète.
Oui.
En fait, on pense aujourd'hui encore de façon très binaire. On est malade, on n'est pas malade. On est diabétique, on n'est pas diabétique. Alors qu'en fait, c'est un continuum. Et si on veut rester éloigné du diabète, il faut prendre en charge tout de suite et prendre des actions tout de suite. Donc ça, ça a été un des plus gros impacts pour moi. C'est vrai que parfois, on a souvent cette impression, après le déjeuner, d'avoir de la fatigue, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, on comprend très bien aujourd'hui, avec les pics de glycémie, l'impact que ça a sur l'état de fatigue et donc de productivité aussi quand on est employé.
Donc, pour répondre à la question de Nicolas, tu voulais vraiment trouver un sujet qui avait de l'impact, qui te passionnait et qui avait une possibilité de développement importante.
Tout à fait. Et donc, en fait, j'ai vu tout ce qui existait aux États-Unis, j'ai trouvé ça passionnant. Et quand je suis rentrée en France, j'étais très frustrée parce qu'en France...
Tu te sentais toute seule.
Toute seule. En fait, c'est soit la consultation de 15 minutes...
T'es rentrée quand? Juste pour qu'on puisse dater...
Je suis rentrée juste avant le Covid.
D'accord. Okay.
Donc en France, c'est soit les 15 minutes avec le médecin généraliste, qui va être très orienté curatif, donc symptômes et ordonnances, soit il y a des bilans de santé aujourd'hui qui existent, qui coûtent 2000 euros voire plus, que j'ai testé aussi, que j'ai trouvé ultra décevant. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument réinventer ça et le rendre accessible au plus grand nombre. Donc j'en fais ma mission et c'est comme ça que l'idée a émergé.
Et quand tu parlais tout à l'heure de ton problème d'œil, tu rentres en France, tu vas voir un ophtalmo, tu lui dis j'ai fait ces tests aux États-Unis, j'ai vu que j'avais 41% de risque, plutôt que de chance, de risque de développer cette maladie. Il te regarde comment ?
Les médecins hallucinent.
Mais ils te prennent pour une folle ou ils sont waouh, c'est dans quel
Écoute, c'est marrant parce que je me suis fait opérer de l'œil récemment. J'ai fait l'opération du laser et j'en ai parlé à la personne qui s'occupait de moi et en fait elle était assez bluffée. Elle trouvait ça génial que je puisse avoir ce niveau de connaissance là. Donc je pense que les médecins aujourd'hui ils sont assez excités en fait par les futures évolutions de la santé.
Ouais.
Alors, il y a toujours forcément un peu de réticence au changement parfois, mais de façon générale, moi, dans les interviews que j'ai faites, j'ai interviewé plus d'une cinquantaine de médecins. C'est vrai que ce qui est ressorti très fortement, c'est qu'ils avaient tous envie de faire plus de prévention. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire pour trois raisons principales. La première, c'est qu'ils manquent de temps. En fait, ils ne sont pas encouragés à faire de la prévention puisqu'ils sont payés à l'acte. Donc, ils sont encouragés à faire des actes courts et le plus possible. Ensuite, les patients qui viennent les voir ne s'attendent pas à avoir de la prévention. Et enfin, surtout pour les plus âgés, ils n'ont pas forcément les bons outils, les bonnes méthodes, les méthodologies en fait, pour le faire. Donc l'idée, c'est que nous, avec Core, on va aussi leur offrir cette proposition de valeur-là qui est énorme. À la fois, on va leur donner beaucoup plus de temps de qualité avec chaque patient pour connaître le patient, le conseiller et l'accompagner. On va leur permettre de leur apporter des personnes qui sont dans cette logique-là, dans cette démarche vers la santé proactive. Et on va aussi leur apporter toute la plateforme, le protocole médical, les technologies qui vont leur permettre de faire des check-ups à l'échelle de façon efficace.
Tout à l'heure, tu disais que vous vouliez lancer dans les entreprises et de proposer en fait ce genre de service aux salariés, services qui sont, comme tu disais très justement, je pense que c'est assez méconnu, proposer plutôt aux leaders à date.
Tout à fait.
Ton interlocuteur dans l'entreprise, c'est qui ? Est-ce que c'est directement les dirigeants ? Est-ce que c'est les DRH ? Est-ce que tu arrives à embarquer la médecine du travail qui à cette image un peu vieillotte ou en tout cas qui est un peu à la traîne par rapport au reste de la médecine. Qui sont tes interlocuteurs et comment tu navigues dans cet univers impitoyable ?
Ouais, tout à fait. On a trois interlocuteurs principaux. Très souvent, en fait, c'est le CEO qui va être dans cette démarche d'offrir cette santé proactive à tous les employés. C'est le cas chez AXA, par exemple, où le CEO d'AXA a annoncé en avril qu'ils offraient maintenant des check-ups à l'ensemble des 33 000 collaborateurs du groupe. On va bien évidemment être en relation avec les DRH qui vont porter le projet, qui vont en faire une de leurs priorités, et avec la médecine du travail. Alors, le contexte est différent selon la taille de l'entreprise. Dans les entreprises plutôt de type grand groupe que nous, on cible, la médecine du travail est très impliquée. Elle est composée de médecins et de professionnels de santé qui sont dédiés à l'entreprise, donc ils connaissent très très bien le contexte de l'entreprise. Avec nous, on va travailler main dans la main pour personnaliser l'approche et les aider aussi à changer ou modifier leur stratégie pour accompagner au mieux les collaborateurs. En fait, ce qui est intéressant par rapport au rôle de l'entreprise, c'est que ce rôle-là a vocation à devenir de plus en plus grand pour la santé des employés. En fait, l'entreprise va prendre le relais des acteurs existants. Et c'est vraiment un changement d'état d'esprit pour l'employeur, de passer d'un mode aujourd'hui qui est très réactif, c'est-à-dire qu'ils vont se limiter à la conformité réglementaire, ils vont se limiter à gérer les arrêts de travail, s'occuper des personnes qui viennent leur demander l'aide, donc ce qui arrive parfois trop tard ou alors parfois jamais. Et on va passer de ce mode réactif à un mode proactif pour s'assurer en amont des maladies que les employés vont bien, donc aller toucher tous les employés de façon proactive et montrer que la santé des employés est importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'employeur a tout à y gagner parce que des employés qui sont en meilleure santé, c'est des employés qui sont plus productifs, plus engagés, moins absents. Et par ailleurs, c'est un argument très très fort en termes de marque employeur. D'ailleurs, les personnes qui en bénéficient aujourd'hui, donc les grands dirigeants, pour eux, c'est un des avantages les plus plébiscités.
Ouais.
Ils font le négocier notamment quand ils changent d'entreprise dans leur package. Donc, c'est aussi un argument très fort pour attirer et retenir les talents. Et il y a un vrai mouvement des entreprises vers ça aujourd'hui. Donc, je mentionnais AXA. Chanel aussi l'a annoncé en septembre, offrir des check-up à l'ensemble des employés. Et plusieurs grands groupes sont en train de chercher à le mettre en place. Donc, nous, on répond à cette demande avec l'offre la plus innovante, la plus efficace, la plus moderne en termes d'expérience utilisateur.
Et il y a des chiffres qui existent sur ce nombre d'employés à qui c'est proposé, qui le font réellement? Ou est-ce qu'il y a encore cette réticence de se dire mais pourquoi mon entreprise et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données, ça concerne ma vie privée, ma santé, est-ce que tu as des chiffres là-dessus ou des retours d'expérience par rapport au premier test que tu as pu faire?
Ouais, alors sur les entreprises aujourd'hui, comme c'est proposé aux grands dirigeants, c'est vraiment quelque chose qui a un avantage plébiscité, qui est très très valorisé. On est sur des taux d'utilisation de plus de 80%. Et c'est vrai que c'est ça la beauté du check-up, c'est que par design, ça s'adresse à tous les employés. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un problème spécifique. On va le personnaliser, l'approche, pour que ce soit pertinent pour tous les employés. Ça, c'est génial pour les DRH qui veulent avoir un impact sur la santé des employés, puisque on va être vraiment le point d'entrée. Et ensuite, après le check-up, on va pouvoir identifier quels sont les sujets les plus préoccupants sur lesquels potentiellement mettre en place des solutions spécifiques.
Et alors, le système et de santé et de travail américain est complètement différent du nôtre. Mmh. Donc, je ne suis pas sûre qu'on peut complètement comparer. Mais est-ce qu'il y a cette médecine préventive en entreprise, qui est aussi peut-être plus avancée aux États-Unis, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent qu'il y a moins de personnes en arrêt maladie, ou il y a moins de personnes qui quittent leur travail, il y a plus de productivité
Oui, tout à fait. Notamment une étude récente de l'OMS qui montre que les initiatives pour la santé des collaborateurs permettent de réduire de 30% l'absentéisme. Donc, quand on sait que l'absentéisme représente 6% de la masse salariale en France, donc c'est des montants qui sont énormes pour les entreprises. Donc, en fait, sur ce type de solution, le ROI est très facile à démontrer. Et nous, ça va être aussi notre ambition, notre priorité de démontrer l'impact en termes de maladies qu'on va dépister tôt, donc potentiellement des vies qu'on sauve en dépistant des cancers ou des maladies graves. Et aussi de montrer l'impact sur le niveau d'énergie, le niveau de productivité des employés, en les aidant à identifier les causes en fait de leurs symptômes, les symptômes du quotidien qu'on a tous, la fatigue, les maux de tête, les troubles musculo-squelettiques. Aujourd'hui, on va pas forcément consulter un médecin pour ça, parce qu'on n'a pas envie de déranger, alors qu'il peut y avoir une vraie raison médicale derrière. Donc on va aussi identifier les carences, les troubles hormonaux, les troubles métaboliques, qui peuvent être à l'origine de ces symptômes du quotidien et qui vont améliorer fortement la qualité de vie et la productivité des personnes.
Oui, parce que comme tu le dis très justement, aujourd'hui, dans ton agenda surchargé, tu te dis pas tiens bon, ça va là, j'ai rien, je vais aller chez le médecin, déjà il faut trouver le rendez-vous pour lui demander un check-up.
Oui, c'est ça. Et puis si on voulait faire le check-up tel que nous on l'a conçu de façon autonome, ce serait 5 à 10 rendez-vous médicaux par personne, donc potentiellement une journée de travail complète. Donc on permet vraiment de le rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. On le fait en 2 heures de bout en bout, dont 1 heure en personne dans nos locaux.
On a parlé des États-Unis qui étaient très avancés sur ces sujets-là. J'imagine UK aussi, Israël, parce qu'ils sont plutôt en avance sur ces sujets-là aussi.
Oui, la Suisse aussi. La Suisse est très très en avance, avec un impact visible sur l'espérance de vie.
Ouais. Et avec la Suisse qui développe aussi beaucoup de cures pour notamment autour du jeûne, etc. Ou qui.
Oui, tout à fait. Notamment la clinique Bochinger que j'ai pu tester, que j'ai trouvé vraiment génial. Je crois beaucoup au pouvoir du jeûne thérapeutique. Bon, ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est pas du tout ce qu'on.
Oui, c'est pas tout ce que tu fais, mais on en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie.
Okay.
oui, donc on parlait des modèles qui pouvaient exister. Donc tu me disais aussi la Suisse. En France, il existe des concurrents ou des solutions qui s'approchent ou qui ont une approche un peu similaire à la tienne, ou ça reste encore un terrain neutre?
Oui, alors effectivement, en France, ça existe, mais c'est réservé aux grands dirigeants, aux plus fortunés, puisque ce sont des check-ups à plusieurs milliers d'euros. Mmh. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de le rendre accessible au plus grand nombre, de le démocratiser. Mmh. Aussi, dans un enjeu d'avoir le plus d'impact possible, parce que là, on va avoir de l'impact, c'est pas forcément auprès des plus fortunés, des plus aisés, c'est aussi auprès des populations qui sont moins favorisées, qui sont plus éloignées du système de santé.
Oui, parce que là, on a dans les exemples, on a beaucoup parlé d'entreprises plutôt col blanc. C'est vrai que c'est aussi des sujets qui concernent des entreprises qui sont plus au milieu d'un désert médical, mm-hmm. Avec aussi des métiers pénibles. Je pense aux gens qui travaillent dans des usines, par exemple. Et c'est vrai que ça peut être aussi des choses qui peuvent les aider.
Absolument. Parce qu'on va pouvoir déployer les check-up sur tout le territoire grâce à un réseau de partenariats avec des centres médicaux existants. Et ensuite, on va accompagner aussi...
L'idée, ça va être de vendre la méthode ou de les agréer comme méthode corps.
L'idée à terme, c'est que tout médecin et toute personne puisse avoir accès au check-up corps. Donc nous, l'idée, effectivement, c'est de proposer aux médecins à terme notre protocole médical, notre plateforme, nos algorithmes pour pouvoir offrir ces check-up au sein de leur cabinet. Et à très court terme, on va s'appuyer sur un réseau de centres partenaires pour pouvoir y déployer nos équipes médicales et pouvoir réaliser les check-up pour nos clients entreprises.
Alors tout à l'heure, tu disais quand on doit se lancer dans une aventure entrepreneuriale, il y a l'idée à trouver, il y a les associés à trouver. Toi, tu es associé avec deux personnes, je crois.
Oui.
Comment vous êtes rencontrés? Quelle est votre complémentarité? Toi, tu venais pas du milieu médical. Tu avais testé en tant que user ces sujets-là. Est-ce que eux ont un profil plus med ou pas du tout?
Oui, alors effectivement, quand je suis rentrée des États-Unis, donc j'avais cette grande vision, ces grands rêves, et j'en ai parlé à ma cofondatrice Khadija, que j'avais connue chez McKinsey, avec qui j'avais bossé. C'était une des personnes les plus brillantes avec qui j'avais eu l'occasion de bosser, donc j'ai tout de suite pensé à elle. En plus, elle travaillait dans la santé depuis toujours. Et grâce à son expérience en tant qu'investisseur, en tant que directrice financière, elle m'a aidée à transformer cette vision en modèle opérationnel, scalable, rentable, efficace, et donc à en faire une réalité. Donc ça a vraiment accéléré la mise en place du projet. Moi, je crée une boîte, c'est aussi pour l'aventure humaine et collective. Et ce que j'adore, c'est construire des équipes, les réunir autour de beaux projets. Je suis vraiment très ravie de notre équipe aujourd'hui. Et ensuite, on a trouvé un médecin qui s'appelle le docteur Raphaël Attal, qui est exceptionnel, qui a vraiment adhéré à notre vision, qui croit beaucoup à la santé proactive, qui nous aide à construire tout le protocole médical et à opérer les check-up. Et enfin, on a trouvé notre associé CTO, Samuel Rosé, qui, lui, a une expérience dans la tech, dans une startup qui s'appelle Birdie, qui est une très belle startup de la health tech au Royaume-Uni, où il a construit toute la tech de zéro à plus de 10 millions de chiffre d'affaires, de zéro à plus de 50 ingénieurs. Donc, il a cette expérience-là de créer une plateforme de santé sécurisée avec une double interface pour les professionnels de santé, pour les patients. Donc, c'était vraiment la pépite qu'on a trouvée qui va nous permettre de réaliser notre vision aussi qui est très, très orientée tech pour rendre possible la santé proactive à l'échelle.
Alors là, je me mets juste à la place des auditeurs qui se disent « on l'a trouvé, mais elle l'a trouvé comment ?» c'est par le réseau que vous avez réussi à vous rencontrer. Alors, tu disais ta première associée, vous aviez travaillé ensemble. Mm-hmm. Pour les deux autres, c'est le réseau, c'est parce que vous avez multiplié les rencontres, participé à des colloques, je ne sais pas.
Effectivement, on a été très proactive sur le sujet. On voulait trouver la meilleure personne pour le projet. Donc, c'est via le réseau, effectivement, une recommandation d'un ami qui avait bossé avec lui auparavant et qui savait qu'il était dans une démarche de trouver sa prochaine aventure. Et globalement, on a eu deux façons d'approcher des CTO. C'est effectivement le réseau ou la prise de contact direct sur LinkedIn. Donc, on a eu la chance de discuter avec plein de profils assez exceptionnels avec qui je pense qu'on va rester en contact sur le long terme.
Qui rejoindront peut-être l'aventure plus tard.
Oui, pourquoi pas.
Et la, une autre chose dont on a besoin quand on lance comme ça et quand on a cette ambition de développement, c'est les financements.
Oui.
Je crois que tu es en plein roadshow, comme on dit dans le jargon.
Effectivement, je sors là de 4 semaines de levée de fonds.
Ce qui est relativement court.
Oui, c'est... Bon, c'était court, mais c'était particulièrement intense. Bon, le dénouement est très positif puisqu'on va annoncer une levée de plusieurs millions d'euros. Ouais. Donc, on est vraiment ravis du résultat et des acteurs avec lesquels on va construire cette belle aventure. C'était pas facile parce que d'un côté, on a un modèle hybride avec du physique et du digital qui peut sembler de prime abord moins facile à passer à l'échelle que d'autres 100% digitaux. Et par ailleurs, on crée une nouvelle catégorie de santé proactive pour laquelle il va falloir évangéliser, créer la demande. Donc, on a réussi à réunir autour de nous des personnes qui partageaient notre vision et qui croient beaucoup à la fois à la vision et en l'équipe. Globalement, je pense que c'était un des moments les plus éprouvants de ma carrière. Je m'attendais pas
pourquoi
à ça. En fait, t'es évalué toute la journée. Et il faut comprendre que le métier d'investisseur, c'est trouver la raison pour laquelle il va pas investir. Donc, t'as pas droit à l'erreur. Tu dois avoir réponse à tout. Faut montrer aucun signe de doute. Et en termes de rythme, c'est, nous, on faisait 7 à 8 pitchs par jour. Où à chaque fois, tu dois être à 300%. Donc, c'est hyper intense. Et bon, c'est aussi hyper excitant parce que, tu partages ta vision, t'as plein de retours. Il y a aussi tout un process où eux, enfin les investisseurs vont faire des recherches sur le sujet, découvrir ce faisant que des entreprises sont en train de chercher un partenaire et donc ça nous permet aussi d'accélérer au niveau commercial. Je pense qu'on a eu la chance pour cette levée de fonds, je pense qu'il a été très réussi d'être hyper bien entouré à la fois de business angels et d'amis qui nous ont beaucoup conseillé. Je pense qu'on
qui
a...
nous ont entraînés aux questions.
Ouais. Ils nous ont entraînés, ils nous ont partagé aussi des conseils.
Comme quoi?
Je pense, notamment trois choses. La première, c'était de bien préparer le terrain avec un dossier très, très solide. Donc, nous, on avait fait le travail de, en amont de la levée, réunir une équipe ultra complémentaire, ultra expérimentée sur nos sujets, de démontrer des preuves de traction auprès des entreprises, de commencer à développer un produit, un minimum viable product auprès d'utilisateurs, MVP tout à fait, de mettre en place des partenariats même avec des labos, des centres médicaux pour commencer à opérer des check-ups. Donc le dossier était globalement hyper hyper solide. Deux, c'est qu'on a commencé à pitcher auprès de business angels, ce que je recommande vraiment à toute personne qui veut lever. Ça nous a permis d'avoir tout de suite beaucoup de traction et donc de commencer à discuter avec des fonds de capital risque de façon beaucoup plus sereine parce qu'on savait qu'on avait l'option de faire le tour uniquement avec des billets. Donc c'est toujours un bon signal à envoyer et c'est aussi beaucoup mieux d'être introduit à un fonds par un billet que d'y aller directement soi-même. Le troisième élément, c'est qu'on a essayé de condenser toutes les discussions avec les fonds sur un temps limité. On a eu la chance d'avoir une proposition assez rapidement, ce qui a permis d'accélérer les process dans tous les fonds et donc de faire en 2 semaines, ce qui par ailleurs a pu prendre un mois ou 2 mois.
Et vous y êtes allée en groupe ou tu y allais toute seule à ces pitchs? Comment vous êtes répartie entre
associés? On a eu la chance de pouvoir se répartir le travail avec mon associé Radija. Donc, typiquement, il y a des calls qu'on faisait toute seule. Donc, ça nous a permis aussi de couvrir beaucoup plus, un périmètre beaucoup plus grand à nous deux. Et après, oui, donc, c'est en plusieurs étapes, en premier appel. Ensuite, il y a souvent un pitch devant tous les partenaires du fonds. Donc, ça, évidemment, on y allait à plusieurs.
Et tu me disais off micro tout à l'heure que tu t'étais préparée à avoir des remarques sur le fait que tu étais une femme jeune, que tu avais des enfants en bas âge. Et en fait, non.
C'est vrai que je m'attendais vraiment au pire. Et finalement, non, j'ai eu aucune question sur le fait que j'avais des enfants ou sur ma capacité à mener le projet. Je pense que les retours qu'on a eus, c'est qu'ils étaient vraiment convaincus par l'équipe. Je pense qu'on était aussi sur un sujet qui peut-être attirait plus certains types d'investisseurs. Notamment, on a échangé avec pas mal de femmes investisseurs. Donc ça a pu aussi peut-être changer un peu la donne. Mais globalement, c'est un moment qui est très, très intense, qui est très très éprouvant, mais globalement, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je craignais.
Je te propose une question d'Étienne Portet, qui est cofondateur de Madines, notre partenaire sur ce programme. On écoute Étienne.
Vous avez un message.
Bonjour Sophie, bravo pour l'aventure Core. Cela fait 6 mois que tu t'es lancée et je serais curieux d'avoir ton avis sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la médecine. Comment vois-tu l'avenir à ce sujet ?
Merci pour la question. Effectivement, l'IA va bouleverser la façon dont on fait de la médecine dans les prochaines années. Ça va être une révolution. Et notamment, je pense que c'est un des éléments qui va nous propulser dans cette santé proactive. Nous, l'IA, la façon dont on l'envisage, c'est que, bon, elle va bien sûr pas remplacer les médecins, mais elle va permettre de faire ce que les médecins, les humains, ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, on sait détecter un cancer. L'IA, demain, pourra prédire les maladies. Donc, on va permettre vraiment de se positionner en amont des maladies pour éviter ces maladies-là. La façon dont on l'utilise aujourd'hui chez Core, c'est de deux façons aujourd'hui. Donc, la première, c'est au niveau du check-up. On va intégrer les dernières technologies de diagnostic et de dépistage grâce à l'IA qui vont permettre de dépister les maladies beaucoup plus tôt. On va aussi intégrer des algorithmes prédictifs dans nos diagnostics pour identifier le risque cardiovasculaire à 10 ans, le risque de cancer des poumons. Et donc ça va nous permettre de personnaliser le parcours de check-up et d'avoir un niveau d'insight beaucoup plus élevé que si on était simplement avec un médecin. Et à long terme, nous, c'est de pouvoir utiliser l'IA sur les données qu'on va pouvoir centraliser, donc des données qui sont très complètes, qui sont longitudinales parce que le check-up, c'est tous les ans, qui sont très qualitatives puisqu'elles sont collectées par notre équipe médicale, de pouvoir bénéficier de ces données pour faire avancer la recherche et notamment créer des algorithmes qui vont nous permettre de plus en plus de prédire les maladies et d'agir sur les facteurs de risque pour rester éloigné des maladies.
Que la donnée nourrisse la donnée.
C'est ça.
Et sur cette notion d'IA, alors tu en as parlé rapidement tout à l'heure parce que tu disais que tu avais interviewé plus d'une cinquantaine de médecins. Pareil, ils sont très ouverts en fait à ces technologies qui peuvent leur faire gagner du temps finalement, où il y a quand même une réticence à se dire est-ce que ça marche vraiment votre truc.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont très, très simples à faire pour changer la vie des médecins. Et quand on voit comment se déroule une consultation, c'est en général 10 minutes de questions-réponses. Ils doivent noter les données dans un logiciel qui semble dater des années 90. Donc, avant même de mettre en place de l'IA, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer l'efficacité, en fait, du travail des médecins. De façon générale, ce qui est important pour les médecins, c'est que ce soit prouvé scientifiquement. Quand c'est le cas, globalement, l'accueil est très, très positif. Faut savoir qu'on est dans un contexte aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'avais pas forcément de médecins autour de moi, donc j'ai interviewé effectivement beaucoup de médecins. On traverse une crise sans précédent des médecins. On le voit au nombre de grèves qui se multiplient. Il y a de plus en plus de médecins qui changent de profession. On voit aussi que plus de 50% des médecins sont en burn-out parce qu'ils manquent de temps en fait avec chaque patient. Ils rentrent le soir chez eux, ils se demandent est-ce que j'ai pas raté quelque chose chez ce patient. Donc tout ce qui peut permettre de soulager leur charge de travail aujourd'hui serait très très bienvenu.
On va évoquer les premières fois d'entrepreneurs. Bon, ça fait 6 mois officiellement, mais il y a eu quand même un petit peu avant où tu as cherché l'idée. Et ça peut être dans le reste de ta carrière aussi, parce qu'on n'a pas qu'une carrière d'entrepreneur. Ton premier doute ?
On doute tout le temps. Mais le premier doute par rapport au projet... Effectivement, j'avais cette vision vers la santé proactive qui existe depuis toujours, mais j'ai beaucoup douté sur le modèle pour y arriver. Donc effectivement, entre un modèle qui serait plutôt en B2C, qui ciblerait les personnes plus aisées, ou un modèle qui serait beaucoup plus accessible à tout le monde. Et donc c'est vrai que c'était une question que je me suis posée. Je pense que c'est beaucoup plus conforme à mes valeurs, à ma vision, la voie qu'on a choisie avec le B2B, avec les entreprises, de toucher le plus grand nombre de personnes. Je pense que c'était une bonne décision.
Ton premier coup de culot ?
Franchement, c'est tout le temps aussi.
Doute, culot. Doute, culot.
Ben, au début du projet, honnêtement, quand il n'y a rien, il faut réussir à parler aux bonnes personnes, donc parler au bon médecin, parler au bon DRH. Et là, tu n'as pas d'autre choix que d'y aller au culot, quoi. Donc après, tout se fait beaucoup plus facilement. Une fois qu'on a pénétré des réseaux, on a des introductions dans tous les sens. Mais au début, ben, il faut vraiment y aller. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il faut prendre l'initiative, quoi qu'il arrive.
Ton premier renoncement?
Le premier renoncement... alors, c'est vrai que moi, je perçois ce secteur de la santé, il y a tellement de choses à changer. J'aimerais faire beaucoup plus... tu vois, limite accompagner encore plus les personnes tout au long de l'année avec la téléconsultation, etc. Et c'est vrai que j'ai dû renoncer à ça pour commencer avec un projet qui était très ciblé avec le check-up qu'on va faire très bien. Et ensuite, on verra dans le futur si on peut faire d'autres choses. Mais oui, il faut renoncer pour être sûr d'aller dans la bonne direction.
Et allez, ta première nuit blanche.
Première nuit blanche, c'était pas une nuit blanche, mais quand on a commencé la levée, c'était... un impact sur ma santé qui était assez déroutant parce qu'effectivement, c'est la qualité du sommeil, c'est le rythme cardiaque qui augmente. Donc ça, c'est assez surprenant.
Donc, tu avais un remède contre ça?
Non, aucun remède.
Il y en a qui font de la méditation, qui disent « Allez, ça va aller
». Avec le temps, on s'habitue.
Et finalement, ta plus grosse difficulté avec ce projet à date?
C'est une bonne question. Écoute, pour l'instant, il n'y a que du positif. Honnêtement, on a un plan très clair, une feuille de route. On sait exactement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et on est en train de franchir chaque étape une à une. Et on est en train de très bien le faire. Donc, pour l'instant, je dirais pas que c'est une difficulté. C'est plus des épreuves, des obstacles à franchir, un peu comme un parcours du combattant quand on est entrepreneur. Je pense que peut-être réunir la meilleure équipe de cofondateurs avec qui on est complémentaires, avec qui on se voit partager cette expérience incroyable sur au moins 10 ans, ça c'est un premier défi.
Parce que c'est notre projet. Alors lui aussi, il faut qu'il constitue ses équipes. Si j'avais une baguette magique et que tu devenais présidente de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais? J'ai une petite idée du thème, mais bon.
Forcément, pour être beaucoup exposée à la santé, si je pouvais proposer deux évolutions pour faire évoluer le système de santé, donc ce serait... Un, passer d'un mode de remboursement aujourd'hui à l'acte, dont j'ai parlé tout à l'heure, à un forfait patient qui encouragerait les médecins à avoir des patients en bonne santé plutôt qu'à multiplier les actes courts. Donc, ça permettrait de faire beaucoup plus de prévention. Alors, c'est déjà en cours d'expérimentation dans le cadre de l'article 51. Et j'espère vraiment que ça va aboutir. Je pense que c'est pas une mesure qui est très simple à mettre en place, mais qui peut avoir beaucoup d'impact.
Parce que l'idée, c'est que chaque patient ait une cagnotte, un montant qui lui est alloué, c'est ça?
Qui serait alloué à son médecin traitant, pour l'accompagner tout au long de l'année.
En fonction des profils? Ou ça serait...
Oui, en fonction des profils, selon les facteurs de risque.
Et en fonction du nombre de rendez-vous, ça se décompte, en fait, comme un système de crédit, en fait. Est-ce que c'est ça ou pas?
Ce serait un montant fixe, en fait, par médecin et par patient.
D'accord.
Donc, le médecin aurait tout intérêt à faire, dès le départ, des examens préventifs pour s'assurer de dépister le plus tôt possible, pour s'assurer d'accompagner, d'orienter le patient dans le système de santé de façon efficace.
Et ça, c'est en test actuellement?
C'est en cours de test. On a deux articles 51 sur le sujet. Et je pense que ça peut effectivement complètement changer la donne. Donc, je suis hyper enthousiaste à cette idée. Et la deuxième idée, c'est au niveau de la génétique. On en a un peu parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ça reste très compliqué d'avoir accès à des tests génétiques en France, alors qu'il peut y avoir un vrai intérêt médical derrière, notamment pour connaître ses prédispositions à certaines maladies. Je pense qu'on pourrait le rendre beaucoup plus accessible tout en l'encadrant pour s'assurer de la bonne utilisation des données de santé.
Pas de dérive, bien évidemment.
Exactement, ce qui est essentiel. Mais je pense qu'on devrait permettre aux personnes qui le souhaitent d'avoir accès à ces informations qui les concernent.
Alors, en Belgique, je sais que sur certaines maladies génétiques, il y a des recherches qui peuvent être faites. Je suis pas sûre qu'en France, on peut les faire. Je pense notamment à des gens qui peuvent être porteurs du gène qui aboutit au cancer sein, utérus, prostate. Et je sais qu'il y a des recherches qui sont faites pour permettre une PMA, par exemple. Enfin, une FIV, pardon, sur ce genre de sujet. Je ne crois pas qu'en France, c'est possible de le faire.
Ouais, on peut faire certaines choses en France, mais le problème, c'est l'accès. Ouais. En fait, on ne sait pas comment y accéder. C'est trop difficile. Notamment, il existe des tests génétiques pour connaître la prédisposition au cancer du sein, mais il y a encore trop peu de personnes qui le savent et qui le font vraiment.
En tout cas, si tu étais président de la République, nous notons ces deux mesures qui pourraient changer la vie de beaucoup de patients.
J'en suis convaincue, oui.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
C'est le moment que t'attendais avec impatience. Il y a une question que j'adore poser, c'est de savoir à quoi tu rêvais, petite fille.
C'est une bonne question. Je rêvais d'émancipation.
Ouais. C'est-à-dire
Je pense que j'ai eu une éducation assez spartiate. J'avais pas forcément accès à beaucoup de choses. Et donc, j'ai eu beaucoup de rêves, en fait, de pouvoir m'évader, de pouvoir voyager, de pouvoir créer, de pouvoir être libre, en fait, de faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, il y a toujours un de mes moteurs aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser mes rêves, porter des projets, et de pas me sentir limitée par quoi que ce soit.
Et tu jouais à des choses en particulier pour t'évader ?
J'étais beaucoup dans les livres.
Ouais.
J'étais beaucoup aussi dans l'informatique, dans le ciné. Tout ce qui pouvait me permettre effectivement de sortir de mon quotidien et de rêver d'un ailleurs.
Et tu me disais tout à l'heure que tu venais pas d'une famille d'entrepreneurs. T'avais pas de modèle autour de toi. Et pour autant, tu t'es dit en arrivant en école, je montrais ma boîte. C'est quoi l'histoire?
Ouais, c'est... Je pense que... Alors, j'étais à l'ESSEC.
Ouais.
Je pense que c'est une très belle école, justement, pour découvrir, pour tenter plein de choses différentes. Donc, moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat d'abord dans les associations étudiantes, où j'ai pu, par exemple, créer une association humanitaire en Argentine. On est parti vraiment avec rien. On a cherché sur place des partenaires. Donc, ça, c'était une des expériences les plus fortes, en fait, de mon expérience en école. Et aussi, à travers différents stages, j'ai pu tester plein de secteurs différents. Et donc, j'ai vraiment pu choisir ce qui me correspondait le mieux. Alors, c'est vrai que j'avais eu la chance de rejoindre Jumia dans un stage. J'étais parmi les premiers à aller en Afrique pour lancer le site d'e-commerce qui est devenu ensuite la première licorne africaine. Et ça, donc, c'était l'expérience que j'ai trouvée la plus excitante, la plus stimulante. Donc, j'ai quand même commencé ma carrière chez McKinsey pendant 4 ans. Donc, j'ai beaucoup appris. Et ensuite, j'ai rejoint 360 Learning pendant 6 ans pour apprendre et vraiment pour me préparer à lancer ma boîte, mais toujours avec cette idée-là en tête.
Cette idée de toujours, un jour, je serai entrepreneur et je lancerai ma boîte.
Oui.
Qu'est-ce que t'as retenu justement de cette aventure africaine?
J'ai vu à quel point c'était possible de faire bouger les lignes, d'avoir un impact à titre personnel, de prendre des initiatives et de voir les résultats concrets de ces actions-là. Et ça, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Et que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est de partir d'une idée, ensuite de voir que c'est en train de se produire. Donc ça, c'est incroyable.
Et j'imagine que tu es restée en contact avec ceux qui étaient tes maîtres de stage à l'époque, comme c'était les débuts de l'aventure de cette boîte. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont marqué ta vie d'entrepreneur et de femme d'ailleurs, pas que d'entrepreneur?
Écoute, je pense que Nicolas a eu un rôle assez clé.
Ouais.
pour m'aider à franchir le pas de l'entrepreneuriat. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça a été une des premières choses que je lui ai dites en entretien quand j'ai rejoint 360 Learning, c'est que je rejoignais 360 pour apprendre de l'intérieur, pour me préparer à lancer ma boîte.
T'es entrée sur quel poste ?
Sur un poste de sales.
D'accord.
Qui était un gros challenge pour moi parce que j'avais jamais vendu quoi que ce soit. J'étais pas du tout douée pour ça.
Mais tu t'es dit, tiens, ça c'est, il me manque cette compétence ou cette expérience en tout cas. Je vais aller me frotter au terrain.
Ouais, en fait, moi, c'est important pour moi de me rechallenger tout le temps, de faire de nouvelles choses, d'apprendre. Et plus ça a l'air difficile, plus je trouve ça intéressant. Donc, la vente, c'était très, très éloigné de ce que j'avais fait auparavant chez McKinsey.
Ouais.
Mais c'est quelque chose qui est utile pour toute une vie. Parce que, en fait, on vend à tout moment quand on est entrepreneur aussi.
Rien que quand tu vas pitcher ton projet à des investisseurs, tu te vends.
Ouais, tout à fait. Donc, en fait, Nicolas m'a permis de gagner beaucoup en confiance parce qu'il m'a confié beaucoup de missions stratégiques chez 360 Learning que j'ai pu réaliser et que j'ai pu réussir petit à petit. Donc, notamment, une de ces missions, c'était lancer les US. Une des missions, c'était de reprendre le marketing. J'avais jamais fait de marketing. Une autre des missions, c'était de faire de la vente. Même si j'étais vraiment pas douée pour ça, j'ai atteint 120% de mes objectifs. Donc tout ça, en fait, m'a montré que j'étais capable d'y arriver, que j'avais pas de limites, de contraintes, et donc pourquoi pas ensuite monter une boîte.
D'où aujourd'hui la boîte.
C'est ça. Je pense que c'est ça le plus important finalement pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, c'est d'avoir cette confiance en soi, de se dire qu'on peut y arriver. Et je pense que si on veut vraiment quelque chose, si c'est vraiment important pour nous, on peut y arriver.
Et ça, c'est quelque chose que tu transmets à tes enfants ?
Bah effectivement, c'est ce que je leur dis aussi. C'est, si tu veux vraiment quelque chose, si c'est important pour toi, tu vas réussir.
C'est quelque chose que toi, tu n'as pas eu petite et que tu as envie de leur transmettre.
Je pense que j'ai eu ça quand j'étais petite aussi, ouais. Parce que finalement, le travail, c'était parfois comme un peu un refuge pour moi. C'est quelque chose que j'avais vraiment la sensation de pouvoir contrôler. C'est-à-dire, plus tu travailles, plus tu as des résultats. Et donc, c'est quelque chose de très rassurant pour moi. Et je pense que mes parents m'ont aussi beaucoup fait confiance pour mes études, pour la trajectoire que je voulais prendre. Ils m'ont laissé tous les champs possibles pour choisir ce que j'avais envie de faire, comment je voulais le faire.
Tu disais tout à l'heure que tu te réfugiais aussi beaucoup dans les livres et le ciné. C'est tes passions encore aujourd'hui. Tu peux nous en parler ?
Ouais, ça a toujours été une passion pour moi. Je pense que c'est hyper important aussi pour continuer à savoir qui on est, pour garder son identité finalement et pas faire que travailler et se noyer dans le travail. Bon, c'est vrai que j'aimerais y passer plus de temps, mais quand tu lances une boîte et t'as deux enfants en bas âge, c'est pas forcément le plus facile. Mais ouais, c'est hyper important pour moi et j'espère que un jour je pourrai potentiellement y consacrer beaucoup plus de temps.
Comme tu disais, t'as pas beaucoup de temps et je le comprends. Si t'avais, en revanche, 2 heures par jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est président de la République, il y a 26 heures par jour, tu ferais quoi de ces 2 heures supplémentaires?
Ouais, alors maintenant que je travaille dans la santé, je n'ai pas d'autre choix que de vivre avec les principes de santé, et notamment le sport, en fait, a un impact énorme sur la santé.
Ouais.
Donc, même si je suis pas très sportive à la base, j'essaye de faire plus de sport. Et sinon, je pense que ce qui est important aussi, c'est de passer des moments de qualité avec sa famille, avec ses proches. Donc, c'est plutôt ça que je privilégierais.
Et alors, là, c'est intéressant ce que tu dis. Bon, bah, maintenant que je travaille dans la santé, je peux pas faire l'autruche et dire oh, c'est pas grave.
faire le cordonnier,
le plus mal chaussé. Comme type de sport, tu fais quoi comme type de sport ?
Moi, j'essaye de varier entre du cardio, de la muscu et du yoga.
Et cette connaissance des éléments de santé qui peuvent avoir une influence sur ton état de santé et ta vie de tous les jours, finalement. Quelles décisions t'as prises qui ont modifié finalement ton quotidien ou tes habitudes ?
C'est typiquement le sport.
Ouais.
Puis tous les éléments, après, t'as envie aussi de contrôler ton niveau de sommeil, ton alimentation. Je pense que l'alimentation, c'est assez clé. On en parlait tout à l'heure au niveau de la glycémie. Mmh. Moi, j'ai des facteurs de risque de diabète. Et donc, c'est important pour moi de pouvoir agir à ce niveau-là. Et donc, je me sens d'ores et déjà plus en forme, moins fatiguée grâce à ça. Et pareil pour le sport. Donc, ouais, on peut vraiment voir un impact tout de suite en appliquant les bonnes méthodes.
J'ai vu que tu avais une Apple Watch. Tu suis tes métriques sur ta montre.
Un petit peu, ouais. Ouais. Bah, typiquement, ça m'a envoyé une alerte lors de la levée de fond pour me dire que, attention, mon rythme cardiaque.
Là, il faut redescendre. Il faut redescendre, madame.
Mais en fait, sur les objets connectés, les montres connectées, ouais. Balances connectées, c'est passionnant parce qu'on a de plus en plus de données de santé qui nous concernent, mais on n'a pas de médecin pour nous aider à les comprendre, à les analyser, pour en faire quelque chose. Oui. Et donc, c'est là que Core intervient. C'est pour donner du temps médical et permettre de mieux se comprendre et d'agir de façon mesurée, de façon continue, pour vraiment améliorer sa santé.
Quand tu penses à demain, tu vois quoi, toi ?
C'est une vaste question. ça peut être... ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif.
Ouais.
J'aime bien voir les opportunités plutôt que les risques. Donc, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de challenges à relever en tant que société. Et je pense qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Je vois plein d'initiatives se créer à plein de niveaux. Ouais, je pense que demain, c'est finalement un avenir où chacun de nous est beaucoup plus engagé pour l'évolution de la société en général, qu'il s'agisse de l'environnement, de la santé ou de tous les autres sujets.
Le sujet de l'éducation, j'imagine que c'est un sujet qui te tient à cœur aussi.
Ouais, c'est un sujet qui n'est pas facile à craquer parce que les alternatives aujourd'hui, il n'y en a pas énormément.
Ouais.
Et on aimerait tous avoir plus de temps à consacrer à nos enfants pour leur apprendre des choses. Ce n'est pas forcément toujours facile. Donc...
Toi, quel est le modèle aujourd'hui que toi, tu mets en place avec tes enfants sur ces sujets d'éducation, justement ?
Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de l'amour, en fait. Ça peut paraître évident, mais c'est leur offrir un environnement sécurisé avec beaucoup d'amour pour leur donner confiance en eux dans la vie, pour pouvoir traverser toutes les étapes. Et la deuxième chose, c'est de montrer l'exemple. Parce que je pense que les enfants sont des éponges, donc ils vont reproduire ce qu'ils voient à la maison. Et donc, c'est super important d'avoir une attitude, une conduite qui est celle qu'on voudrait qu'eux-mêmes adoptent par la suite.
Wow. C'est notre rubrique La Claque. Parce qu'en fait, ce podcast, enfin le podcast Grand Frère, 40 Minutes de Next, on l'a sorti pendant le confinement. Et le confinement était quand même une sacrée bonne claque pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas que ça comme claque. Et il y en a plein d'autres qui peuvent toucher les entrepreneurs. Et la claque, ça peut être quelque chose de positif comme de négatif. Et j'aurais aimé savoir quelle était la tienne de claque.
T'as complètement raison. Je pense que ça peut être quelque chose aussi très positif. Moi, je pense que c'est ma force, c'est que dès que je me prends une claque, ça me donne encore plus d'énergie pour montrer que c'est possible et qu'on peut y arriver. Je pense que une claque, un moment difficile à traverser quand j'étais chez 360 Learning, c'est quand on a voulu lancer l'activité aux États-Unis. Bon, pour moi, c'était quelque chose de très important pour faire de 360 Learning un acteur global. Au début, c'était très difficile parce qu'on n'avait pas le bon positionnement, on n'avait pas les bons messages. En plus, quand on est un acteur français qui veut s'implanter aux États-Unis, c'est super dur de recruter les meilleurs talents. Donc, c'était un démarrage très compliqué. Mais j'ai tenu bon. J'ai interviewé plus de 150 candidats pour trouver la personne sur le poste qui était vraiment important pour nous au product marketing. Finalement, on a trouvé la pépite Caroline, qui est depuis devenue CMO de 360 Learning, qui en un mois a changé toute notre stratégie, tout notre positionnement. Donc, autant dire qu'on a mis à la poubelle tout ce que j'avais fait depuis un an. Et pour la bonne cause, parce que ça a tout de suite décollé, ça a accéléré la croissance. C'est grâce à ça qu'on a pu lever 200 millions de dollars récemment. Et c'est grâce à ça que les États-Unis, maintenant, c'est le vrai moteur de croissance de 360. Je pense qu'il y a aussi un sujet d'ego. Le plus important, c'est pas forcément d'avoir les bonnes réponses tout de suite, mais c'est la capacité à se remettre en question, à changer de direction quand c'est nécessaire. Et
prendre quelqu'un plus capé à un moment donné sur un sujet et pas avoir peur de le faire finalement. Mm-hmm. Et ces personnes-là, vous êtes partie aux États-Unis.
Oui.
Vous étiez installée où ?
À New York.
À New York. Et tu as recruté Caroline là-bas ou elle était ici à Paris ?
Je l'ai recrutée là-bas.
Là-bas.
Donc d'accord. On a recruté tous les employés américains.
Ouais.
En étant un acteur français qui n'avait pas forcément de bureau, on était dans un WeWork, qui avait une belle vision, mais très très difficile d'attirer
les talents là-bas. Et en plus, je crois que je réécoutais il n'y a pas très longtemps un extrait de Jonathan Cherki, Content Square, qui est à New York et qui disait au début, je recrutais, et je me disais, waouh, là j'ai recruté une super pépite. Et en fait, il dit, mais en fait, il y a un truc culturel là-bas qui font qu'ils savent hyper bien se vendre pour le coup. Et qu'en fait, c'était pas toujours des super pépites. Toi aussi, t'as ressenti ça?
Ouais, ben moi, avec le temps, j'ai mis en place un process de recrutement. Où, en fait, dans le recrutement, on commençait à travailler ensemble sur un cas très précis. Et donc là, je voyais tout de suite comment ça se passait. Est-ce que la communication était fluide ? Est-ce que l'approche était suffisamment structurée ? Et donc, c'est comme ça que, quand j'ai commencé à travailler avec Caroline, je me suis dit, mais waouh, elle est incroyable. C'est absolument la personne qu'il nous faut.
Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure américaine ?
Beaucoup de choses très, très positives. Que, encore une fois, tout est possible quand on veut vraiment y arriver, qu'il faut tenir bon, il faut se remettre en question, il faut trouver des solutions. Et Transcendent Learning, c'est un des acteurs français qui a vraiment réussi aux États-Unis. Donc, on a réussi ça. C'est une de mes grandes fiertés.
Et d'un point de vue plus perso, vivre à New York, c'était un rêve ou pas du tout?
C'était une ville qui m'attirait beaucoup dans l'imaginaire, mais pas forcément la vie que je recherche. Moi, j'adore la France. Je suis très heureuse de vivre en France. Donc,
une belle expérience, mais c'était bien que ce soit
court. C'est génial au niveau business, ouais. Vraiment. Enfin, c'est beaucoup plus simple de faire du business là-bas. Les gens sont plus ouverts. Ils te laissent une chance, en fait. Et t'as beaucoup moins ce côté élitiste, grandes écoles qu'on peut avoir parfois en France. Mais en termes de qualité de vie, de plein de choses, moi je suis vraiment française.
T'es très contente d'être rentrée.
Oui, je suis très contente de vivre en France.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
J'attendais la dernière note pour me taire et te laisser le micro pour ta carte blanche sur le sujet de ton choix.
Oui, merci. Alors, c'est vrai qu'une de mes motivations pour entreprendre, c'était de pouvoir démontrer que les femmes peuvent créer des entreprises très ambitieuses qui réussissent. C'est vrai que j'ai été choquée quand j'ai commencé à analyser ce marché de la santé, de voir que les plus grosses boîtes étaient exclusivement dirigées par des hommes. Et d'ailleurs, je suis toujours choquée aujourd'hui quand je vois des decks de levée avec des équipes 100% masculines. Donc, je pense qu'on a une responsabilité collective pour faire changer les choses et que ça commence le plus tôt possible au moment de la création de la boîte. Donc, je lance un appel aux entrepreneurs. Soyez intentionnels, en fait, pour créer des équipes mixtes dès le départ. Et aux investisseurs aussi, pourquoi ne pas en faire un critère pour sélectionner les projets, d'avoir au moins une femme dans le projet. Je pense que c'est pas grand-chose et ça peut changer beaucoup dans les prochaines années.
En tout cas, merci pour cet appel. Je sais que c'est certaines thèses d'investissement de certains entrepreneurs. Je pense notamment au cas de SingleArt et de Vera Kempf, qui est associée avec avec Baptiste, et qui ont été choisis pour être des couple associé mixte, mais c'est vrai que, et je crois que récemment il y a une étude aussi de France Digital qui montrait que les boîtes où il y avait cette mixité avaient aussi plus de chances de réussite,
oui.
Et de complémentarité.
Oui, c'est le cas de Sista aussi bien évidemment, et plus en plus d'acteurs sont en train d'aller vers ça, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de marge pour
le oui, il y a encore beaucoup de marge.
Plus fréquent.
Ça nous fait une transition toute faite. Si toi, Sophie, tu avais dû choisir une sista, tu aurais choisi qui et pourquoi ?
Alors, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs que j'admire. Il y a plein de beaux projets qui sont en train d'émerger et de réussir. Si je devais en citer une, je dirais Ariane Comorn, qui a créé la Solive en 2021. Donc, la Solive, c'est une école des métiers de la rénovation énergétique du bâtiment. Donc, faut savoir que les bâtiments, c'est 45% de la consommation d'énergie. Aujourd'hui, il manque des centaines de milliers d'artisans, de techniciens pour ces métiers. C'est le défi que s'est donné la Solive. Et Ariane, c'est une personne exceptionnelle qui déborde d'énergie, qui, moi, m'a beaucoup inspirée dans les phases amont de réflexion du projet où il n'y avait rien encore. Elle m'a montré que c'était possible d'entreprendre, aussi d'être maman. C'est hyper important d'avoir des exemples concrets autour de soi de personnes qui réussissent et qui savent se rendre disponibles quand il n'y a pas grand-chose, quand on est dans ces moments de réflexion où finalement tout se joue.
Bien, merci beaucoup pour ce coup de projecteur et merci d'être venu nous parler de COR qu'on va suivre attentivement dans les prochaines semaines, mois, et on attend aussi l'annonce officielle de la levée.
Oui, merci beaucoup.
Salut Sophie.
Salut.